Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, l'Union européenne, les gouvernements après les élections.
C'est ça, avec le vice-président du Conseil Matteo Salvini qui a dû démentir hier des rumeurs de législatives anticipées après l'affaiblissement du M5S, son partenaire, aux élections européennes. Alors qu'en Grèce, Alexis Tsipras, lui arrivé deuxième avec Syriza, remet son mandat en jeu plus tôt que prévu début juillet et que la Belgique se cherche un gouvernement suite aux législatives parallèles de dimanche dernier. Après le test européen, est-ce que ce sera le moment des épreuves nationales? Eh bien, on pèse ça avec vous. Pascal Delwitte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone depuis Bruxelles. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, bien sûr spécialiste des partis politiques en Europe, notamment Parti vert et gauche radicale en Europe. Vous avez publié dessus en 2016. Cette fois-ci, donc, la Grèce, l'Allemagne, mais aussi peut-être le Royaume-Uni, la France ou la Roumanie dans une certaine mesure. On a beaucoup parlé d'un scrutin marqué par l'affaiblissement des partis traditionnels et d'un morcellement politique croissant, mais hors du Parlement. Est-ce que c'est trop dire qu'il y a véritablement des exécutifs déstabilisés par les européennes?
Non, c'est pas trop dire. On le sait, traditionnellement, les élections européennes ont des impacts sur la vie politique nationale et des impacts sur la vie des États, qui conduisent parfois à des remaniements, à des réorientations et régulièrement aussi à, je dirais, des scrutins anticipés ou des dynamiques nouvelles dans le chef de la vie politique nationale.
Avant qu'on parle des exécutifs, juste votre analyse des grands traits de couleur, on pourrait dire, de ces élections. D'abord, peut-être une bonne résistance un peu inattendue des sociaux-démocrates aux Pays-Bas, premier pays à voter, mais également Portugal et bien sûr socialistes espagnols. Ça, c'était pas prévu?
C'était pas prévu. De manière générale, c'est mieux qu'attendu. Après, il faut quand même bien observer que la tendance de fond est un recul, avec parfois des reculs marquants, bien sûr en France, bien sûr en Allemagne, dans le nord de l'Europe. Donc, c'est contrasté, c'est un peu mieux que ce qu'espéraient les sociaux-démocrates, mais ça reste à un niveau extrêmement faible par rapport à des configurations qu'on observait à la fin des années 70 ou même à la fin des années 90. Je dirais les défis principaux pour la social-démocratie sont toujours devant eux.
Et en tout cas pour le PSOE, Parti Socialiste Espagnol, c'est quand même une vraie victoire contre Vox qui était arrivé en force aux dernières législatives. Une fierté pour nous, mais une énorme responsabilité, a dit Sanchez. Et il pourrait tenter un exécutif minoritaire. Est-ce que ce serait trop audacieux de ce point de vue-là avec 32,84% quand même aux européennes?
Il pourrait tenter un exécutif minoritaire, ce serait audacieux. En même temps, il faut bien observer qu'il l'a fait dans la précédente législature avec un score plus faible encore. Et surtout, on a vu que dimanche, Podemos a été très affaibli à la fois aux élections européennes, aux élections de communauté et aux élections locales. Donc, le PSOE et Sanchez va devoir composer avec cette donne.
Oui. Et alors pour l'Italie, là, je le disais, Salvini qui est obligé de démentir des rumeurs de la Stampa. C'est vrai que le mouvement 5 étoiles a été beaucoup affaibli. On a parlé d'inversion des positions, puisque c'est désormais la Ligue de Salvini qui est en force à plus de 30%. Mais en quelque sorte, l'Italie, c'est pas le seul pays à réaliser cette confirmation de la vague populiste, finalement, un peu isolée en Europe.
L'Italie a cette vague populiste et on voit bien depuis l'avènement du gouvernement que Salvini est la personne marquante, la personne la plus citée à la fois à l'interne et à l'international. On observe la poussée d'autres partis populistes, mais là aussi c'est une poussée qui n'est pas parfois aussi forte qu'on ne l'imaginait. Alors il y a parfois des dimensions symboliques comme en France où le Rassemblement national est premier, mais il est moins important qu'en 2014 par exemple. Donc c'est un paysage bigarré. Mais ce paysage bigarré confirme les grandes tendances que vous avez pointées au départ, c'est-à-dire une plus grande fragmentation de manière générale et donc beaucoup plus de difficultés à faire des compromis et à dégager des points forts, notamment dans le chef de l'Union européenne pour la désignation des postes importants.
Oui, dont les discussions ont commencé cette semaine, devraient se poursuivre en début de semaine prochaine. Juste sur la percée écologique, vous dites paysage bigarré, mais bigarré peut-être aussi au niveau des nuances de vert ou de verdissement des pays, avec une poussée très forte en Allemagne, des conservateurs qui ont été dépassés par les verts, pour le coup en France, au Royaume-Uni aussi. Emmanuel Macron a parlé d'un message très fort en France et partout en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a raison?
Il a partiellement raison et partiellement tort. C'est-à-dire qu'effectivement, on observe une poussée verte, un peu comme 1999, avec des pays en pointe, hein, comme l'Allemagne, comme l'Autriche cette fois-ci, comme la Belgique, comme la France. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a des zones beaucoup plus faibles, comme l'Europe du Sud en particulier, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et bien sûr les pays d'Europe centrale et orientale. Mais en tout cas, un mouvement vers un vote plus environnemental, a contrario, par rapport à 2014 et par rapport à une dynamique qu'on observait depuis quelques années, un recul des partis de la gauche radicale dans l'ensemble. On a vu l'échec de la France insoumise, on voit le recul de Syriza, on voit le recul de Podemos. Là aussi, il y a des contre-exemples de temps en temps, mais je dirais en dynamique, 2014-2019, une Europe plus verte, une Europe moins marquée par la gauche radicale.
Oui, au point peut-être, puisqu'on parlait de la Belgique, là, donc législative en même temps que les européennes dimanche dernier, avec les Verts qui ont eu une forte poussée et le parti écolo, donc premier par exemple sur la région de Bruxelles, qui pourrait former, a-t-il dit, une coalition climat autour de lui. Ça s'est jamais vu en Belgique, est-ce que c'est possible ?
Ce sera en tout cas difficile. Il y a une poussée des Verts, elle est beaucoup plus forte du côté francophone que du côté néerlandophone, mais en tout cas cette poussée est bien au rendez-vous avec des scores très importants pour Écolo en Wallonie et à Bruxelles, et une bonne performance des Groen. Cela dit, la formation de la majorité, et en particulier de la majorité au niveau fédéral, s'avère extrêmement complexe, et à l'heure où je vous parle, la question de une coalition climat et pas la question principale. La question principale est de savoir si on pourra, avec les résultats de dimanche, former une majorité fédérale. C'est plutôt ça la grande question aujourd'hui en Belgique.
Oui, et si la Belgique est repartie pour 541 jours, comme ça avait été le cas à l'époque 2010-2011 de tractation. Puisqu'on parle des exécutifs, il y a eu deux destitutions quand même assez impressionnantes. Sébastien Kurz par motion de censure, donc là aussi, nouvelles élections dans le courant de l'année. Et puis en Roumanie, pour d'autres raisons peut-être, Liviu Dragnea, le Premier ministre qui a dû quitter la présidence du PSD, qui est incarcéré pour des affaires d'emploi fictif. Est-ce que là, il faut y voir un contre-coup des européennes, sachant que pour le coup, un genre de sanction, Dragnea s'était beaucoup opposé à la Commission européenne et à Timmermans, notamment sur sa volonté de réformer la justice pour lui échapper, dit-on.
Oui, de manière générale, ces deux exemples sont indépendants des élections européennes, puisque les dynamiques étaient en œuvre avant. Hein, la crise en Autriche précédait le scrutin européen, et la crise en Roumanie précédait le scrutin européen. Mais ces scrutins ont cristallisé les choses, et effectivement, je crois qu'en Roumanie, il faut que ce pays se reprenne, que ses élites politiques se reprennent, et que la justice retrouve sa pleine indépendance. Et en Autriche, ben, on voit que les personnalités qui se proclament les plus fortes pour défendre les intérêts de la nation sont parfois celles qui sont les plus prêtes à vendre ces intérêts de la nation à d'autres. Donc c'est aussi des exemples de déconstruction de rhétorique. Mais à la fois en Autriche et en Roumanie, ben, les deux processus sont des deux processus qui sont quand même positifs, parce que finalement l'état de droit prévaut en Roumanie. Et en Autriche, ben, l'électeur sera appelé à trancher face à la situation à laquelle il s'est retrouvé.
Et alors, je parlais de la Grèce en début d'entretien. Donc là, le Premier ministre Tsipras a dès dimanche soir dernier convoqué des élections anticipées. Ce sera le 7 juillet. Est-ce qu'il faut dire qu'il est clairement désavoué par ce vote européen, puisque Syriza donc arrive deuxième derrière les conservateurs?
Oui, c'est un désaveu. Après, pour la Grèce, comme pour les autres pays européens, il faut toujours être prudent, parce qu'il y a régulièrement une surinterprétation des résultats électoraux européennes. Surinterprétation parce que, d'une part, le comportement aux élections européennes n'est pas toujours le même qu'aux élections nationales. On est, je dirais, dans le chef de beaucoup d'électeurs, on a un sentiment de plus grande liberté de choix, en quelque sorte, et d'un choix qui a moins d'importance et moins d'impact. Et d'autre part, il faut être très prudent dans la comparaison de résultats entre les élections législatives et les élections européennes, parce que le différentiel de participation électorale est très élevé, et que donc ceux qui vont participer aux élections législatives vont ramener du poids dans la décision du comportement électoral. Mais il n'empêche que ces élections européennes provoquent toujours des réactions politiques très importantes, et vous avez raison de le souligner. Le cas de la Grèce est emblématique, hein, ça a cristallisé le choix du Premier ministre d'organiser des élections anticipées.
Et peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi emblématique, ce sont les doutes qui sont apparus en Allemagne cette semaine, concernant notamment la CDU, donc elle-même fragilisée par une poussée, on pourrait dire, verte en Allemagne. Aujourd'hui fragilisée, Angela Merkel qui était obligée de dire que la CDU avait sa part de responsabilité dans les questions climatiques, la CDU obligée de reporter des décisions climatiques importantes. Est-ce que là, c'est pas le prochain exécutif complètement déstabilisé à venir?
Oui, c'est en tout cas un exécutif qui révèle beaucoup de fragilité avec la montée des Verts, le niveau encore très important de l'AfD, le déclin des sociaux-démocrates et le fait que, on le sait maintenant, Angela Merkel est dans son dernier mandat, elle n'est plus présidente du parti, elle est en difficulté avec la candidature de Manfred Weber pour la présidence de la Commission européenne. Donc un ensemble d'éléments qui, on le voit, pour le principal pays de l'Union d'un point de vue politique et d'un point de vue économique, fragilise la situation et donc on sent bien que, en particulier dans le chef des deux partenaires du gouvernement, la CDU-CSU d'un côté et le SPD de l'autre, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de circonspections et donc il ne faut pas exclure qu'éventuellement, à un moment donné, effectivement, on rentre dans une logique d'anticipation des élections pour essayer de clarifier la situation. Surtout si, d'aventure, au terme des processus qui sont engagés maintenant pour cristalliser la nomination des personnes à l'échelle de l'Union européenne, la CDU-CSU en sort affaiblie.
Et alors, prochaine échéance, c'est la semaine prochaine des élections législatives qui auront lieu au Danemark. Le Danemark où, pour le coup, les sociaux-démocrates, je crois, se sont bien maintenus pour les européennes. Qu'est-ce qu'il y a en attente de ce vote, selon vous, une confirmation des européennes?
De manière générale, on voit que dans tous les instituts de sondage, dans tous les sondages qu'ils ont produits, le bloc de gauche est devant le bloc de droite, mais l'écart n'est pas rédhibitoire et donc il y a quand même une assez grande incertitude sur, somme toute, est-ce que ce sera plutôt le Parti social-démocrate qui devancera les libéraux et le bloc de gauche qui devancera le bloc de droite. L'attente principale est un changement de majorité, donc actuellement c'est un gouvernement libéral minoritaire, vers un gouvernement social-démocrate avec des partenaires de gauche qui pourraient voir le jour dans quelques semaines. Oui. Cela dit, on a déjà eu des affirmations, des dynamiques des sondages au Danemark, donc il faut rester très prudent.
Oui, avec ce parti du peuple danois, en tout cas arrivé de quatrième aux élections européennes, alors qu'il était deuxième en 2015. On en reparlera et merci beaucoup pour toutes vos explications aujourd'hui, Pascal Delwitt, je le rappelle, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Merci, bonne journée.